Alors, nous poursuivons notre réflexion sur les métropoles culturelles dans l'espace francophone. La table ronde de ce matin est orientée autour de la question même, de la notion, c'est-à-dire de la notion de métropole culturelle. Alors, nous entendrons de brèves interventions des trois participants et ensuite nous aurons l'occasion d'une discussion plus générale. Tout d'abord, Stanley Péan, qui est originaire de Port-au-Prince, mais qui a grandi au Québec, où il a fait ses études de lettres à l'Université Laval. Il a publié des recueils de nouvelles, parmi lesquels « Le tumulte de mon sang »,« Sombres allées »,« Zombie blues ». Depuis 1998, il est rédacteur en chef du journal Le Libraire. Et mélomane et critique musical, il anime et co-réalise depuis 2004 des émissions sur le jazz sur la chaîne Espace Musique de Radio-Canada. Et depuis 2004, il est président de l'Union des écrivaines et écrivains du Québec. Alors, première intervention, Stanley Péan.
Merci, Madame la Présidente de l'Académie des Lettres du Québec, Monsieur Dedecker, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de lettres et de langue française de Belgique, Messieurs, Dames, distingués membres de l'Académie. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté de prendre la parole devant vous ce matin et de participer à ce colloque en tant que président de l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec. Je le fais avec à cœur le resserrement de ces liens qui existaient déjà entre nos deux associations aux vocations complémentaires. Ce resserrement naît de la volonté d'affirmer une nécessaire solidarité entre écrivains. Et je le fais en signalant d'ailleurs que l'Académie compte maintenant parmi ses membres le président fondateur de l'UNEC, Jacques Godbout, qui a pris la parole tout à l'heure. J'ai intitulé ma brève communication « Au-delà de Babel, l'avenir de Montréal, métropole culturelle francophone ouverte sur le monde ». Et ça va ainsi. Si l'on en croit Gabriel Roy dans Alexandre Genevert, peut-être en aucune autre ville le printemps est-il autant le printemps qu'à Montréal. Ailleurs, il manque le froid excessif, cinq longs mois de gel et de neige et probablement aussi l'été torride qui, ici, suivra presque aussitôt le printemps. Plus de 50 ans après l'apparition de ce roman, je me surprends à méditer sur ce que dirait aujourd'hui l'écrivaine franco-manitobaine qui avait fait de la métropole québécoise, alors métropole canadienne, le théâtre de son œuvre maîtresse, Bonheur d'occasion. Serait-elle, comme certains d'entre nous, tentée de mettre en doute la vocation culturelle de cette ville pourtant ouverte sur le monde, où l'on confond trop souvent, hélas, culture et divertissement populaire par un étrange réflexe métonymique? Ou serait-elle aussi interloquée par le peu d'importance qu'on donne l'impression d'accorder dans le débat public à cet enjeu pourtant fondamental pour le développement de Montréal et par l'aisance toute naturelle avec laquelle on choisit de braquer plus volontiers les projecteurs médiatiques sur de sordides histoires de corruption et d'enveloppes brunes à l'hôtel de ville? Montréal se cherche. Elle se cherche depuis des années, ainsi qu'en témoigne l'abondance de ses écrits qui tentent de la redéfinir en termes d'identité et de vocation. Elle se cherche avec d'autant plus d'urgence qu'au fil du dernier demi-siècle, et pour toutes sortes de raisons essentiellement politiques, elle s'est vue ravir son statut de métropole économique et culturelle du Canada par Toronto, la ville reine. Cette plus grande agglomération urbaine francophone d'Amérique, notre ville, plus de trois fois centenaire, est demeurée la métropole économique et culturelle du Québec. Et c'est autour de cette île que s'est concentrée la moitié de la population de cette province que d'aucuns voudraient voir accéder au rang de pays. Et l'essentiel des activités socio-économiques qui donnent le ton en ce qui a trait à la poursuite du destin de notre nation québécoise. Dressée sur le fleuve Saint-Laurent entre les Grands Lacs et la capitale nationale, l'ancienne Ville-Marie réunit donc plus de 3 millions de résidents, si l'on compte les habitants de ses banlieues nord et sud. Par le transport maritime, elle se rattache au port de l'Ontario ainsi qu'aux grands ports mondiaux. Depuis la fermeture assez paradoxale de l'aéroport de Mirabel, l'aéroport international de Dorval, rebaptisé Pierre-Éliott Trudeau il y a quelques années, d'où le paradoxe, permet à des voyageurs issus des quatre coins du monde d'atterrir chez nous. On ne compte plus ces parcs industriels qui misent sur des avenues de développement fort diversifiées liées à des technologies nouvelles en pleine expansion. Et à l'instar d'autres métropoles d'Amérique et d'Europe, Montréal s'enorgueillit de son réseau de transports en commun urbain et interurbain, des quelques 75 stations de métro encore jeunes, de 75 stations de son métro encore jeunes qui demeurent l'un des plus propres et les plus sécuritaires du monde. À ce sujet me vient l'envie d'évoquer ce bon mot de la regrettée Anne Hébert, à qui une de mes condisciples étudiantes en l'Université Laval avait demandé pourquoi avoir campé à Paris plutôt qu'au Québec l'intrigue de son roman Héloïse, qui mettait en scène des vampires modernes qui avaient choisi le métro de la Ville Lumière comme théâtre de leurs activités. Au début, j'avais en effet pensé situer l'action à Montréal, de répondre à ce monstre sacré de nos lettres. Si je me suis ravisé, c'est que j'estimais le métro de Montréal trop jeune pour avoir des fantômes. Certes, plusieurs observateurs réclament encore qu'on inaugure des lignes de TGV qui rattacheraient Montréal avec Québec et Windsor, voire avec New York. Mais sans doute faut-il répéter, ayant à l'esprit la citation de Gabriel Leroy que j'évoquais tout à l'heure, que le climat sibérien qui règne à Montréal en janvier la distingue d'à peu près toutes les autres agglomérations urbaines du monde de taille comparable, à l'exception sans doute de la ville de Moscou. À Montréal, on s'enorgueillit aussi, et à juste titre, des artistes de réputation internationale qui ont vu leur carrière prendre leur envol ici, peu importe le domaine d'expression qu'ils ou elles ont privilégié, qu'on songe à Michel Tremblay ou Leonard Cohen, à Beaudommage ou Oscar Peterson, à Denis Arcand ou Marie Chouinard, à Oliver Jones ou Phyllis Lambert, Edmund Allen ou Gaston Miron. Et quitte à choquer les esprits chagrins, mesquins ou frileux, qui ont vu et continuent de voir en l'émergence des voix venues d'ailleurs une menace intrinsèque à la culture authentiquement québécoise, Montréal a contribué à enrichir cette culture en y intégrant les apports de gens aussi talentueux que Mercedes Palomino, Émile Olivier, Sergio Coquis, Édouard Locke, Wadji Mouawad, Dany Laferrière, Bia Krieger, Lassa de Sela et Kent Nagano. Ce sont souvent des amours secrètes que l'on partage avec une ville, écrivait Camus, mais il n'y a rien de secret dans ces amours que célèbrent des gens venus de toutes les origines, des écrivains notamment. Comment habiter Montréal à travers la littérature? Eh bien, habiter Montréal, c'est traîner sa bohème de par les rues du plateau avec la tribu de Maryse de Francine Noël. C'est dériver le long de la Maine avec les noctambules de Michel Tremblay. C'est errer dans les parcs comme des élans d'Amérique avec André Langevin. Habiter Montréal, c'est draguer en compagnie des nègres de la Ferrière, c'est palabrer à la brûlerie, en compagnie des bailleurs d'audience d'Émile Olivier. Habiter Montréal, c'est encore déambuler dans les histoires bigarrées des aurores Montréal de Monique Proulx. C'est s'aventurer dans le centre-sud inquiétant des contes d'André Lemelin dans Hold Up. C'est transcender la noirceur des destins auxquels sont en apparence condamnés les célestes vagabonds façon Génération X, les nouveaux beatniks de Mistral, Hamelin ou Hélène Monette. C'est infiltrer la communauté hassidique en compagnie d'Yves Thériault ou de Myriam Baudouin. C'est enfin chez moi, s'il m'est permis de me citer, s'abandonner au lyrisme exacerbé du jazz d'un Gabriel Dark Angel, quand la note bleue prend d'assaut le quadrilatère de la Place des Arts et transforme pour une dizaine de jours le centre-ville en une réplique septentrionale de New Orleans d'avant Katrina. Dans une entrevue qu'il accordait au quotidien La Presse il y a 5 ans, notre collègue écrivain Naïm Katan, illustre membre de l'Académie qui nous accueille aujourd'hui, déclara à propos de la ville haute de l'Exposition universelle de 1967 et des Jeux olympiques de 1976 qu'elle n'est pas aussi belle que Paris, mais qu'elle est ouverte à celui qui arrive. Pour un immigrant, ce qu'on peut lui offrir de mieux, ce n'est pas de dire « voilà, tu es là, voici ce qu'on te donne ». Le plus beau cadeau, c'est de demander « tu es ici, qu'est-ce que tu as à donner ?» Voilà pour les fleurs, mais ainsi que nous l'enseigne la sagesse populaire, celles-ci sont toujours suivies du pot. Car notre métropole n'est pas un jardin de roses cultivé avec art et science. Elle connaît évidemment son lot de problèmes graves. En tant que ville moderne et multiculturelle, Montréal est plus que jamais appelée à faire face aux défis du 21e siècle. Tout en étant fière, toute fière qu'elle puisse être de son potentiel et de ses réalisations, elle n'aura pas le choix d'innover et de se développer davantage, notamment sur le plan social, ne serait-ce que pour prévenir la fortification de ghettos ethniques, la cristallisation du repli identitaire de certains de ses concitoyens qui pourraient la condamner à une dynamique de l'enfermement, du refoulement et de l'affrontement. En ce sens, les événements malheureux survenus l'an dernier à Montréal-Nord, au lendemain de la mort du jeune Freddy Villanueva, abattu dans des circonstances peu glorieuses par les officiers de la police municipale, sont de lugubres présages du pire qui pourrait bien nous guetter. Les défis lancés par le siècle nouveau au visage de notre ville sont en effet de taille et inédits dans son histoire. On le pressent plus qu'on ne le sait. Et cette métropole, dont le visage francophone ne masque pas la présence de l'anglais, devra savoir les relever avec dynamisme teinté d'ouverture si elle ne souhaite pas basculer dans le camp des villes nord-américaines anglophones, multilingues ou fractionnées. Régine Robin, auteure de La Québécoise, n'hésite pas à voir dans cette fragmentation une source paradoxale de richesse culturelle, ainsi que le remarque la critique Cherry Simon. Robin, je cite, présente Montréal et continuera de parler de Montréal comme d'un espace paradoxal. Dans cette ville, la fragmentation des histoires est à la fois déchirure et promesse. Le contact des langues et des identités est une source remarquable d'énergie et d'expérimentation linguistique, et surtout il permet l'aménagement d'espace entre les identités. En même temps, la rencontre incessante des langues nourrit une obsession de la dualité, une préoccupation constante avec le rival, l'autre. Fin de la citation. Ce qui me plaît personnellement chez Régine Robin, sur lequel j'aimerais m'attarder un peu, c'est que là où bien des romanciers ou essayistes montréalais ont vu le théâtre d'affrontements identitaires alimentés par un rejet mutuel des deux communautés historiquement antagoniques, l'auteur de La Québécoise a introduit une perspective à vol d'oiseau, pour ainsi dire, qui ouvre des voies inexplorées et qui permet d'envisager une réunion des diverses zones de la cité en un tout indivisible, emblématique d'un avenir commun à partager. Vous me permettrez d'illustrer le paradoxe de la posture ancienne par une anecdote personnelle. Il y a quelques années, alors que j'étais encore ce jeune écrivain issu de l'immigration et appartenant à cette relève de la littérature d'ici, je prenais part à une table ronde portant sur l'avenir de Montréal et de la culture québécoise dans le cadre d'une émission diffusée sur les ondes de la radio publique. À un moment donné, l'un de mes interlocuteurs, un sociologue réputé, avait évoqué avec un soupçon d'appréhension ce jour inévitable et depuis longtemps redouté où les citoyens et citoyennes que l'on a pris l'habitude de classer dans la catégorie des minorités visibles seraient majoritaires sur l'île de Montréal compte tenu de l'exode progressif vers la banlieue de la population québécoise de souche blanche, catholique et francophone. En entendant cette déclaration, je n'avais pu m'empêcher de lancer, ironique, « Eh bien, à compter de ce jour-là, il faudra nous rebaptiser majorité visible. » Certes, me direz-vous, l'ironie n'est jamais qu'une parade, pas toujours efficace contre l'angoisse qu'elle masque mal, et je vous le concède. Cela dit, Montréal n'est de toute évidence pas la seule agglomération urbaine au monde qui soit aux prises avec des crises d'ordre linguistique ou des tensions ethniques. Mais dans l'intérêt du mieux vivre ensemble et à la lumière d'abondants exemples des circonstances tragiques du laisser-aller, il importe que nous nous demandions collectivement si nous voulons cohabiter en défendant notre langue nationale ou s'il est souhaitable de laisser l'un ou l'autre des groupes linguistiques persister dans son rejet des apports culturels de la majorité et le justifier en évoquant le fallacieux prétexte de droits historiquement acquis ou des accommodements déraisonnables nés d'une rectitude politique contraire au courage et à la lucidité. Quant au lendemain des émeutes de Montréal-Nord que j'évoquais tout à l'heure, la mairie a invité l'Orchestre symphonique de Montréal et son maestro Kent Nagano à aller donner un concert gratuit dans le quartier ébranlé par les violences que l'on sait. Il s'est trouvé dans l'agora médiatique quelques cyniques professionnels pour critiquer cette initiative pourtant fort louable, pour n'y voir que poudre aux yeux et manipulation politicienne. N'en déplaise aux râleurs et aux raseurs, j'étais pour ma part plutôt d'avis que cette mise en œuvre du vieux proverbe selon lequel la musique adoucit les mœurs avait d'admirable de placer la culture au cœur de la problématique du mieux vivre ensemble. Peut-être par déformation professionnelle, peut-être par idéalisme, je demeure profondément attaché à cette idée entachée d'humanisme que les arts et la culture, que la littérature peuvent être les lieux du ralliement collectif, le théâtre de la rencontre avec l'autre et du partage. Le rassemblement de Montréalais et de Montréalaises d'origines diverses autour d'une langue commune, le français, et d'une culture commune à bâtir ensemble m'apparaît comme une voie propice aux échanges et à la compréhension mutuelle, propice à l'expression d'un idéal de diversité culturelle au service de la paix. Malgré son passé colonial, la langue française, langue des Lumières, demeure étroitement associée à un ensemble de valeurs, comme les droits de l'homme, la solidarité, le respect, qu'elle a su véhiculer à travers le monde par la voix des écrivains et philosophes issus des divers pays francophones, dont le nôtre. Voilà un patrimoine culturel qu'il importe de pouvoir et de savoir partager avec tous les résidents de cette métropole, avec tous les citoyens et citoyennes du Québec, dont cette ville est le fleuron. Et je ne crois pas faire montre du rejet des autres langues, des autres cultures, quand je réaffirme cet attachement partagé par l'ensemble des Québécois et Québécoises à la culture francophone et à la langue française. S'il faut en croire les projections actuelles, Montréal, métropole pluriethnique de plus en plus polarisée et ghettoisée en fonction des langues et des cultures d'origine de ses résidents, en fonction des valeurs divergentes de ceux et celles qui l'habitent, est forcément appelée à connaître des mêmes métamorphoses profondes au fil du prochain quart de siècle. L'histoire, qui n'a guère l'habitude de nous consulter, poursuivra tant bien que mal sa marche inexorable. À nous d'infléchir cette marche par notre volonté politique et nos aspirations collectives.
Merci beaucoup Stanley Péan pour ce vibrant plaidoyer pour un mieux vivre ensemble. Nous ne commenterons pas tout de suite sa présentation, nous allons plutôt continuer à entendre d'autres interventions et nous reviendrons à la discussion ensuite. Alors nous entendrons maintenant Madeleine Monette, qui est romancière et nouvelliste, originaire de Montréal, mais établie à New York depuis 1980. Elle a publié en 2007 un cinquième roman, « Les rouleurs », après « Le double suspect »,« Petite violence »,« Amande et melon » et « La femme furieuse ». Chacun de ces romans a retenu l'attention de la critique et plusieurs articles leur ont été consacrés. Alors, cette Montréalaise d'origine mais new-yorkaise d'adoption nous fera part de ses réflexions sur la notion même de métropole culturelle vue à travers son expérience américaine. Madeleine.
Merci, Lise. Monsieur Jacques de Decker, mesdames et messieurs, chers voisins, je rentre d'une tournée en Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois, j'ai exploré l'une des îles du Pacifique. Je me suis trouvée en Mélanésie, dans les mers du Sud, en Océanie. Dans ce POM, ou pays d'outre-mer français, de quelque 230 000 habitants, où l'on parle aussi une trentaine d'autres langues et dialectes du Pacifique, la métropole continue d'être le gorille dans la salle, the gorilla in the room, selon l'expression américaine, ou une réalité impossible à ignorer. Ceci au cœur de revendications nationalistes engagées par le peuple premier, de tensions politiques et sociales qui ont déjà lancé le processus de décolonisation et qui pourraient mener à l'indépendance dans moins de 10 ans, donc à une rupture. En Nouvelle-Calédonie, dans mes conversations de tous les jours, comme dans les réponses à mes questions sur ce pays, inévitablement, la métropole refaisait surface. J'y étais sensible et je ne pouvais m'empêcher de faire des comparaisons avec les Antilles françaises, le Québec, la Belgique, etc. Ainsi, au Québec, si l'on demandait à la femme et à l'homme de la rue ce que représente pour eux la métropole, je ne crois pas qu'ils songeraient à la France, même s'ils étaient de lignée française, même si leurs ancêtres étaient du Poitou, comme les miens, ou de Bretagne ou de Paris. Ils vous parleraient, selon toute vraisemblance, de Montréal ou de capitales et de mégapoles. Ils vous entraîneraient sur le terrain de l'urbanité. Mais ils n'évoqueraient sans doute pas cette francité ou cette européanité qui, pour les Québécois, n'est souvent, dans l'enfance d'abord, qu'une persuasion scolaire, qu'un attachement livresque. Ils ne mentionneraient sans doute pas le rapport d'une société colonisée à la mère patrie. À moins qu'ils n'aient déjà visité la Guadeloupe ou la Martinique, ou d'autres DOM, ROM et POM, où la métropole revient souvent à la bouche des habitants, citoyens lointains de la République, qui seraient toutefois, d'après Aimé Césaire, davantage des Français entièrement à part que des Français à part entière. Non, ils n'assimileraient probablement pas la métropole à la France, à moins d'être des acteurs culturels ou des intellectuels, par exemple, à moins d'avoir été exposés à cette notion par leur éducation ou leur voyage, par leurs intérêts ou leur curiosité. Ce ne sont là, bien sûr, que des suppositions de ma part, sans fondement scientifique. D'ailleurs, les rapports du Québec à la France, bien différents de ceux d'un département ou d'un pays d'outre-mer à l'État, ne sont pas ici une préoccupation de tous les jours. Le sujet peut être délicat ou épineux, donner lieu à des opinions tranchées, il n'est pas inscrit dans la texture du quotidien. Après 3 semaines seulement en Nouvelle-Calédonie, je sais encore bien peu de choses de ce pays insulaire. Mais j'ai été séduite par l'ardeur et la détermination des Kanaks, ces autochtones majoritairement indépendantistes qui ont nommé leur pays Kanaki, représentent 44% de la population et se distinguent avec fierté des habitants d'origine européenne, les seuls qu'on appelle les Calédoniens. Essayons un instant d'imaginer un Québec où les peuples premiers constitueraient, comme là-bas, le groupe culturel le plus important et serait la force vive de l'indépendance. Mais trêve de jonglerie. Ces Calédoniens, descendants d'immigrés d'Europe, on les a surnommés là-bas les Caldoches dans les années 60, terme péjoratif au début parce qu'il évoquait les Boches. Chose étonnante, on les appelle aussi les Européens, même s'ils sont de la troisième ou cinquième génération, nés là-bas comme leurs parents et leurs aïeux, ce qui en fait bien protester quelques-uns. Quant aux métropolitains ou métro, ces Français blancs de la colonisation de peuplement, ils ne sont pas trop gâtés non plus. On les appelle avec ironie des oreilles, Z'oreilles, comme sur l'île de la Réunion et dans le reste de l'outre-mer français. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui m'a interpellée surtout, c'est que jamais au Québec, il ne nous viendrait à l'idée de nous dire « Européens », de nous nommer ainsi, comme si cela expliquait le tout de notre existence. Le Québec n'étant pas administré par la France et n'étant pas européen non plus à la différence de la Belgique, quel sens a-t-il donc de la métropole française? Ancrée sur le continent américain, ayant plongé ses racines en terre d'Amérique, perçoit-il sa culture comme périphérique ou satellite par rapport à la culture française ou par rapport à d'autres cultures? Et les écrivains québécois d'ici ou d'ailleurs, qui ont toujours pour matériaux leur langue d'origine ou qui se sont attachés à leur langue d'emprunt, écrivent-ils sous l'étroite dépendance de la littérature?
Alors, nous poursuivons notre réflexion sur les métropoles culturelles dans l'espace francophone. La table ronde de ce matin est orientée autour de la question même, de la notion, c'est-à-dire de la notion de métropole culturelle. Alors, nous entendrons de brèves interventions des trois participants et ensuite nous aurons l'occasion d'une discussion plus générale.